Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 23 octobre 2024, 17h, pendant 1h30, nous allons parler de livres, nous sommes en direct, c'est parti, jusqu'à 18h30 à écouter Au fil des pages sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, Frédéric, Agnès, Dominique, Marie, par enregistrement, Francis, et aujourd'hui notre invité, Olivier Deloignon, pour parler de son livre « Une histoire de l'imprimerie et de la chose imprimée » publié aux éditions La Fabrique en 2024. N'oubliez pas de nous écrire, de nous faire part de l'intérêt que vous portez à certains livres et nous-mêmes, nous pourrions en faire état dans le cadre de notre émission. Je vous rappelle l'adresse librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, et puis sur le blog du groupe de communes de Paris, il suffit de cliquer sur « Contact ». On va parler écologie, on va parler bande dessinée, on va parler de beaucoup de choses et puis on va parler de l'histoire de l'imprimerie. C'est tout à fait logique dans une émission consacrée aux livres. Alors, tout d'abord, la première partie pour alimenter le débat. Un livre que je pourrais appeler « Crise écologique et crise sociale ». Les riches, ah les riches, ils écrasent la société, la terre. Et Hervé Kempf et Julien Bendès publient aux éditions du Seuil une bande dessinée intitulée « Comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher ?» En couverture, vous verrez un couple, snob, madame, une coupe de champagne sans doute à la main, monsieur, sûr de lui, lui tient la taille. À la dame, bien sûr. Signe de possession ? Ah, allez savoir. Et derrière, un avion. Des espaces saccagés, brûlés, en voie de destruction définitive. En page intérieure, encore un riche, accoudé négligemment sur une voiture de riche, avec comme plaque d'immatriculation les mots MOI1, c'est-à-dire « moi 1 ». Et puis, des avions, des chaussures sur un tapis, le tout de luxe, un hélico pour parvenir sur un yacht, un côté décadent de bourges, consommateurs de poudre blanche. Et puis, éloignons-nous de la terre, et oui, elle se rapetisse, cette terre, elle devient une tête d'épingle dans l'univers. Voilà, le problème, c'est que la catastrophe écologique se dessine sur notre toute petite terre, et les riches se gavent, et les riches s'en foutent. La crise est mondiale, les inégalités se creusent. Comment en est-on arrivé là? Alors, nos deux auteurs vont nous intéresser à une longue histoire de l'humanité. Les éléments se succèdent qui préparent le choc capitaliste avec le symbole de la machine à vapeur de Watt. L'évolution industrielle, la colonisation, bref, l'histoire du capitalisme sur toute la Terre et qui essaye d'utiliser tout ce que la Terre peut produire. Évidemment, les conséquences sur le climat sont effroyables. Immédiatement, nous songeons à Élisée Reclus qui dénonçait déjà à la fin du 19e siècle cette dégradation de l'environnement dans son livre « Du sentiment de la nature ». Un livre que nous avons plusieurs fois commenté dans cette émission et je vous invite vraiment à le lire. Il est à craindre que l'homme ne soit pas ou plus la nature en prenant conscience d'elle-même pour reprendre la formule d'Élisée Reclus. Un chiffre, 40 milliards de tonnes de CO2 sont relâchées dans l'atmosphère par an. Et ce n'est pas tout. Les forêts disparaissent. Le nombre d'espèces d'animaux sauvages est en chute libre. Les réserves de poissons s'épuisent à cause de techniques de pêche saccageant les mers et les océans. Et puis nous connaissons les pandémies, les pénuries d'eau, et au moins la dégradation de la potabilité de cette même eau. L'alimentation est définitivement polluée, les produits pseudo-bio sont atteints. Comment trouver un espace, aujourd'hui sur Terre, vierge de toute atteinte causée par l'homme et son industrie? En fait, pour les auteurs, il faut changer le système. En réaction à ceux qui nient la catastrophe, type évidemment le sinistre Trump, qui tête des risques de redevenir président des États-Unis, le Rassemblement national, Nicolas Sarkozy, et j'ajouterai moi aussi ceux qui versent des larmes de crocodile mais qui ne font rien, les responsables politiques aujourd'hui, c'est une caricature, les récents événements politiques et les choix budgétaires en France le démontrent amplement. Il n'y a rien de fondamentalement décidé et la conférence qui se tient aujourd'hui en Amérique latine, eh bien, on va bien voir ce que ça va donner, mais je crois que ça va pas donner grand-chose, c'est bien le vrai problème. Et rappelons-nous les propos d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. L'humanité a ouvert la porte de l'enfer, mais fondamentalement, ces propos ne changent ni changent rien, ils sont oubliés. Un an après avoir été prononcé. En fait, la Terre est devenue un marché. Le néolibéralisme entretient les inégalités. Et qu'allons-nous faire ? Eh bien, les explications des auteurs démontent les mécanismes de l'homme milliardaire standard. Vous reconnaîtrez certains visages, d'ailleurs. Lisez vraiment ce livre, il est passionnant. La course au profit supplante toute autre vision. Et pourtant, le slogan « consommer moins, répartir mieux » garde tout son intérêt. Il ne s'agit pas que les gens ne consomment plus, il s'agit de consommer moins et de répartir mieux. Vers quoi se dirige-t-on ? L'intelligence artificielle ? Des surhommes ? L'alliance des riches et des politiciens ? Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais le suivi de l'actualité montre qu'ils agissent avec de moins en moins de discrétion, surtout depuis l'élection du dernier président de la République, en France. Une forme de sinistre caricature, attention, ils contrôlent l'État, les médias, l'alliance de la police et de la justice rappelle la formule de Victor Hugo, la police partout, la justice nulle part. Vous contestez ? Les lois répressives vous tombent dessus. Des solutions ? Taxer les riches, lutter contre les inégalités, construire un avenir, se construire une histoire commune, pour y croire, et non pas écraser les faibles comme nous le vivons aujourd'hui. Hervé Kempf et Juan Mendes expliquent, analysent, les dessins sont pédagogiques, tous les propos et toutes les affirmations sont référencées. On ne peut pas dire que c'est de la caricature et que c'est pas vrai, c'est un détournement des propos. Non, 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 non. Tout est référencé. On peut retrouver les discours, on peut retrouver les articles, on peut retrouver les rapports. Très important à une époque où les procédures pour diffamation se multiplient. Et je reprends les derniers mots de la quatrième de couverture. Dans ce livre, on rit, on pleure, on apprend, on mobilise, c'est un outil pour changer le monde, il y a urgence. Je rappelle les références, Hervé Kempf et Juan Mendes, comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher, publié aux éditions du Seuil, en 2024 là, c'est tout récent. Donc une critique de la société qui montre bien que c'est le système qu'il faut changer. Nous, on en est conscients, à la Fédération anarchiste et sur Radio Libertaire, mais il y a d'autres critiques que l'on peut former à l'égard de la société, et c'est le contenu du livre présenté maintenant par Frédéric. Je lui laisse le soin de prononcer le titre, car vraiment, Fred, où as-tu trouvé un titre pareil ? À toi.
Et bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Alors je vais prononcer le titre Fuck Work, un livre de James Livingstone, un universitaire américain. Alors avant toute chose, il serait peut-être bon que je vous traduise le titre pour les non-anglophones. Je vais néanmoins le traduire dans un langage, disons, correct et châtié, car traduit littéralement, ce serait quand même assez grossier. Alors je propose une version édulcorée, donc je propose « foutu travail ». Vous retrouverez d'ailleurs cette expression à maintes fois, à maintes reprises dans le livre. Ce livre, malgré son titre qui est loin d'être un titre, disons, très correct, est loin d'être un livre léger. Mais à tout d'une vraie étude, d'une vraie réflexion sur une question centrale, à savoir le travail. Thème abondamment abordé, il est vrai, mais ici, c'est la disparition du travail. Oui, vous avez bien entendu, la disparition du travail purement et simplement. James Livingstone, avec des sources multiples et fiables, nous démontre que le plein emploi ne pourra jamais être atteint. Et bon nombre d'activités humaines liées à un travail vont disparaître de plus en plus. Alors, est-ce une idée nouvelle que défend James Livingstone ? Eh bien non, c'était bien connu. Depuis les années de crise économique des années 1930, c'était connu comme un plan plus sérieusement étudié apparemment dans les années 1960. Car l'automatisation et l'informatique avaient détruit beaucoup d'emplois et des métiers continueraient à le faire, à disparaître comme nous le savons. Cette prise de conscience obligea le gouvernement états-unien à étudier, devant la disparition des emplois sans possibilité réelle d'en créer d'autres, de se poser la question d'un revenu sans travail, pour soutenir avant tout la consommation et lutter contre la pauvreté. Nixon, Donald Rumsfeld, Dick Cheney mirent en place une expérimentation de revenu sans travail pour éventuellement la généraliser. Vous lirez les conclusions de cette expérience dans le livre. Une société libérée du travail ? Point d'interrogation. Si oui, que feront-ils les humains ? Point d'interrogation. De la religion à la philosophie, la politique, la sociologie, Livingstone aborde ces disciplines et ce qu'elles en disent. Les pensées d'Hegel, Marx, Arendt sont aussi étudiées. Vous voyez que malgré un titre léger, le livre, qui est facile d'accès par ailleurs, défend de manière sérieuse cette thématique. Je dois dire que la lecture de ce livre m'a ouvert matière à penser sur un thème de société qui devra un jour être obligatoirement traité. J'ai beaucoup apprécié ce livre et je vous le recommande vivement. Alors je vais vous communiquer ces références. Fuck Work, alors... Pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est F-U-C-K, W plus loin, W-O-R-K, de James Livingstone, collection Champ Actuel, l'éditeur Flammarion Poche. Nous allons maintenant passer la musique, Norah Jones, Are You Lonesome, un hommage à Elvis Presley.
Are you lonesome? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear. Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Dans cette première demi-heure, nous présentons des livres pour ouvrir le débat. Vous avez vu ces deux ouvrages-là que je vous recommande. Et pour les collègues, pour les amis qui n'ont pas eu la possibilité de prendre en note, je renvoie sur le site du groupe Communes de Paris. Vous trouverez les références de ces ouvrages. Mais nous aimons aussi, pendant cette première demi-heure, parler de peinture, d'exposition, de catalogue. Et c'est Agnès qui est notre spécialiste et qui va nous présenter une charmante exposition doublée d'un catalogue. Agnès, de quoi s'agit-il ?
Oui, c'est l'exposition Marc Doily, Les Lumières de l'Intime, à la Galerie des Montparnasse, de Mathieu Lebal. On a été invité à cette exposition et on se sent projeté, en fait, spectateur, devant ces petites toiles, comme dans les couloirs et les espaces de cet appartement tranquille. On se sent presque assis devant cette belle nappe blanche invitante. On est proche de rejoindre cette personne près du guéridon. On profite de la lumière sur cette belle demeure de pierre blanche, une femme appuyée à la rambarde de la fenêtre, des atmosphères feutrées à la Edward Hopper. La peinture de Marc Doily est une peinture de l'instant, douce et intimiste, qui grave une émotion d'éternité dans une composition d'illustrateur. Marc Doily, l'artiste, est né à Genève en 1978 et aujourd'hui lyonnais. Peintre, diplômé de l'école Émile Cole, en qualité d'illustrateur, il affectionne la peinture en petit format. Ses tableaux, ses scènes d'intérieur inspirent douceur du quotidien des choses, comme les parties de baignade ou les promenades dans les parcs. Les objets, du guéridon à la nappe, transportent dans un cadre de délicatesse. Un refuge, un silence qui se rend visible, comme le souligne Mathieu Lebal. Je cite « Ici, tout est à sa place, ordonné par le parti pris de la vie elle-même. » Cet autre temps, c'est celui du tableau, de ces heures qui demeurent, de ceux qui ne fuient pas, de ceux qui méritent d'être gardés. Autant de lenteur que de lueur, de contraste et de vibration, que d'éclat secret des apaisements. Des personnes, des intimes sont aussi peints dans des situations apaisées, familiales, dans des atmosphères sereines et calmes. La lumière y est tellement belle, adaptée à chaque illustration, tantôt feutrée, tantôt exubérante. C'est une œuvre à découvrir en visitant la Galerie Montparnasse, du 10 octobre au 16 novembre 2024, au 5 rue Stanislas à Paris, dans le 6e arrondissement.
Nous allons passer une œuvre d'Éric Satie qui correspond bien à cette atmosphère, Gymnopédie numéro 2. Thank you. Restons dans la douceur et passons dans la douceur du Val-de-Loire. Je voudrais vous présenter un petit livre intitulé « Avec Pierre de Ronsard » de Franck Maubert. Une couverture bleue, claire, l'élégance des éditions du Mercure de France, une aile du casque de Mercure. Nous entrons dans le livre par la lecture d'une annonce, la vente d'une maison dans le pays du poète Pierre de Ronsard. Eh oui, l'appel de Ronsard, la maîtrise du français, la passion de la littérature. Franck Maubert mobilise poésie et histoire dans une découverte des secrets du Val-de-Loire. Bien sûr, l'Aude à Cassandre, Mignonne allons voir. Évidemment, La Rose. Un clin d'œil au roman de La Rose de Guillaume de Loris et Jean Demain. Plus loin, nous retrouvons la Boétie, avec son petit liré, son Loir gaulois. La Pléiade rayonne de ses poètes. Le texte de Franck Maubert devient tableau. Comme ceux de Félix Vallotton qui sut si bien traduire les nuances de Val-de-Loire. Le lecteur accompagne Ronsard dans la quête de la vie, de l'amour, de la nature. Il était rare en ces temps de louer la nature et ses charmes délicats. Ronsard s'en inspire pour ceux des dames, les naïades, les divinités des champs et des bois. C'est une promenade littéraire, ce livre. Nous visitons la poissonnière, propriété de Ronsard. Je cite Franck Maubert. « Je baigne au cœur de ce trésor vibrant, au pays des mots de Ronsard, et ces vers que j'apprivoise se mélangent à ceux de ma vie d'une manière furtive. » Oui, il faut les apprivoiser, ces vers. Le français se construit à cette époque et encore aujourd'hui, s'enrichit. Les prononcer enchante notre esprit. Et toujours, je cite, « et c'est une joie intense ». Au fil des pages, l'auteur nous livre une délicate biographie inscrite dans une maison que je vous laisse découvrir. Autre convocation, celle de Rabelais, un voisin, là aussi. Un sage qui aurait pu goûter la sagesse des poésies de Ronsard, je cite « Nous ne tenons en notre main le futur ni le lendemain ». Ça c'est Ronsard, Rabelais aurait pu dire la même chose. Et toujours les amours. Comment pour parler de vos traits et mèches et de vos beaux yeux qui toujours m'obsèdent, la langue et le son me font défaut à force répéter votre nom. Ah, Cassandre, Cassandrette est là comme la Laure de Pétrarque, vous connaissez certainement. L'auteur, Franck Maubert, lit et vit dans cette maison du bord du Loire. Du Loire, hein, on est bien d'accord, et pas de la Loire. Il nous livre Ronsard, ce prince des poètes, à la fin de sa vie, avec un dédoublement que je vous laisse là aussi découvrir. Je cite encore Maubert. « Et je ne cesserai de cheminer sur ces sentiers, à guetter l'oiseau chanteur au plumage bleu et bleu, et au casque rouge, à regarder glisser l'eau, son immobilité limpide, et toutes ces choses qui s'enfuient. Et je songe à ce poème d'un autre prince des poètes, Paul Fort, La pluie. Les horizons s'enfuient, la pluie tombe infinie. Eh oui, les choses s'enfuient, la pluie tombe infinie, là. Un livre délicieux à lire dans le cocon d'une petite maison mignonnette, pour reprendre les formules de Ronsard. Je rappelle les références du livre, Franck Maubert, avec Pierre de Ronsard, aux éditions Mercure de France, en 2024. En attendant notre hôte, qui doit nous appeler pour 17h30, puisqu'il est en Alsace, donc c'était plus facile de le faire par téléphone, je vous invite à découvrir le numéro d'octobre du Monde Libertaire. Le Monde Libertaire a publié un dossier assez copieux sur la question de l'antimilitarisme, le bruit des bottes, la guerre. Bien. Je souligne aussi, alors parmi les articles, pardon, qui sont intéressants dans ce dossier, eh bien, vous retrouvez un texte. Ben, pourquoi je suis antimilitariste ? Et ce qui est intéressant, c'est que le titre, notre journal titrait en 1982 « Les États préparent la guerre, guerre à l'État » et publiait un article de Maurice Joyeux. Eh bien, ce texte de Joyeux, il est analysé dans ce numéro avec... une analyse aussi de Louis Lecoing, anarchiste, pacifiste, antimilitariste, des poésies, oui, tenez, par exemple, Jean-Jean de Garrigue nous livre une poésie, Mort au champ d'horreur. Vous verrez, le texte est assez fort. Et puis, évidemment, nous avons Il court, l'insoumiste, un texte qui a été aussi publié sur le site du Monde Libertaire. Jouons sur ces échanges entre la version papier du Monde Libertaire, le site du Monde Libertaire et évidemment Radio Libertaire. Bon, notamment notre émission, mais il n'y a pas que. Un article aussi de Pierre Chardon, « Les anarchistes et la guerre, deux attitudes », un texte écrit en 1915. Je crois que c'est tout à fait intéressant de se replonger dans l'histoire. Et puis nous avons un texte consacré à Pepe Buesa, « L'objection de conscience, l'insoumission en Espagne ». L'intérêt aussi, c'est d'avoir des textes de la Fédération anarchiste sicilienne, d'avoir un ami qu'on aime bien sur Radio Libertaire et particulièrement dans le groupe Commune de Paris, « Quelle connerie la guerre ?» L'auteur est un certain Hugues. Après, vous avez évidemment... Dans ce numéro, vous avez des commentaires de livres. Ah, je mentionne aussi la chanson de Craon. On la connaît pas, la chanson de Craon, avec des illustrations et un certain nombre de commentaires de livres. Bon, on en reparlera une autre fois. Je crois que nous avons notre invité. Voilà. Allô. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Olivier. Alors, donc, Olivier, on va passer un moment là sur une autre thématique, puisque je faisais une présentation du livre, enfin du dernier numéro du Monde Libertaire. Là, on va présenter votre livre, Une histoire de l'imprimerie et de la chose imprimée, publié aux éditions La Fabrique en 2024. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire de la typographie et du livre, enseignant à la Haute École des Arts du Rhin et chercheur associé à l'Université de Strasbourg. C'est bien ça ?
Absolument.
Voilà. Alors, comment vous êtes-vous intéressé à l'histoire de la typographie? C'est l'histoire en elle-même, c'est l'art, c'est la diffusion des idées, ou c'est les trois en même temps?
Alors, c'est une question qui est un petit peu complexe, mais disons que d'abord, j'ai toujours été assez fasciné par la question du livre. Je viens d'une famille dans laquelle il y en avait très peu, et donc pour moi, c'était un objet qui avait un caractère un petit peu magique. Ensuite, finalement, j'ai suivi un petit peu Cille, puisque j'ai passé un CAP de compositeur typographe, c'est-à-dire la composition au plomb encore, hein, à l'époque.
Ah, donc vous avez une véritable expérience de l'imprimerie?
Alors, j'ai une véritable expérience de l'imprimerie. Mmh. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai composé très très longtemps au plomb, puisque c'est à peu près le moment où à la fois la photocomposition était en train de s'imposer, et puis quelques années plus tard, le Macintosh est arrivé et a balayé tous ces métiers anciens. Mmh. Mais en tout cas, oui, j'ai cette formation, j'ai fait carrière en partie aussi dans l'imprimerie. Et puis un petit peu plus tard, j'ai mal tourné, comme on a dit un jour, et puis je suis allé faire un doctorat sur l'histoire de la typographie, parce que c'était un domaine que je maîtrisais un petit peu.
Mmh, d'accord. Et pourquoi un livre consacré à l'histoire de l'imprimerie ? Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message ?
Alors, l'idée pour moi était, quand on m'a demandé en fait de faire cette histoire de l'imprimerie, donc c'est les éditions de La Fabrique qui m'ont contacté parce qu'ils avaient vu un chapitre que j'avais fait dans le catalogue imprimé, qui était une exposition sur la naissance du livre à la BNF. Et ils avaient déjà une histoire de l'édition qui avait été faite par Jean-Yves Mollier, une histoire de la librairie par Patricia Sorel, et Éric Hazan a trouvé qu'il manquait la question de l'imprimerie, qui est finalement à l'origine de la chose imprimée, donc à la fois de l'édition, mais aussi de la librairie. Alors le message que je voulais faire passer était d'abord, disons, de placer mon regard à la hauteur des gens qui pratiquent l'imprimerie, à la fois des gens qui travaillent dans les imprimeries, des pratiques d'atelier sur un petit peu toutes les époques, mais aussi sur la question des lecteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, puisque je consacre un passage assez long d'ailleurs sur la question des censeurs, qui sont, ma foi, les à peu près seuls très très bons lecteurs selon certains des livres, puisqu'ils les lisent avec une attention qui va effectivement jusqu'à la censure. Et donc l'idée était de ne pas tomber dans une histoire de la mécanique d'imprimerie qui aurait pu être relativement lassante assez vite, mais plutôt de rentrer dans l'atelier, de regarder comment ça s'est passé à diverses époques, quels sont aussi les enjeux de l'imprimerie, du fait d'imprimer, mais aussi toutes les censures et autres bâtons dans les roues qui peuvent être glissés aux gens qui essaient d'imprimer.
C'est vrai que lorsqu'on lit votre livre, on trouve de nombreux échos à la très belle exposition qui avait eu lieu à la BNF sur les débuts de l'imprimerie, et je trouve intéressant de pouvoir expliquer dans un petit livre accessible, l'importance de l'imprimerie dans notre société en Occident.
Alors elle est fondamentale, mais elle n'est pas uniquement occidentale.
Eh oui, c'est ce qu'on va dire, oui.
Donc, alors pour parler de cette importance, finalement, on a demandé au lecteur du New York Times en 1996 quelle était l'invention ou l'inventeur le plus important du millénaire. Et finalement, c'est Gutenberg qui a été désigné comme cette personne. Gutenberg, c'est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc ce qu'on appelle la prototypographie, la manière dont on invente finalement l'imprimerie en Occident, pour m'apercevoir assez rapidement finalement que l'impression existe dans d'autres endroits du monde, en particulier en Extrême-Asie, Chine, Corée, et dans une certaine mesure, le Japon.
Alors avant de déconstruire un peu le mythe de Gutenberg, est-ce que vous pourriez nous parler de cette citation de Rabelais dans Pantagruel qui compare l'imprimerie et l'artillerie? Il y a un côté langue d'Ésope un peu dans l'imprimerie qui peut être dangereuse, non?
Alors l'imprimerie peut tout à fait être dangereuse. D'ailleurs, au début, les sentiments sont très mitigés. On a une mythologie autour de l'imprimerie qui laisse croire qu'il y a eu un mouvement d'enthousiasme absolument majeur avec cette invention. Mais en fait, beaucoup se méfient de l'imprimerie, notamment souvent les milieux cléricaux, parce que vous avez un monopole sur la production des livres à ce moment-là, qui sont dans des scriptoriums, soit attachés à l'université, soit attachés aux institutions religieuses, et qui n'ont aucune envie ni de perdre ce monopole de production, et encore moins l'autre danger majeur de l'imprimerie, c'est de mettre à disposition de tout le monde des textes qui sont là aussi normalement lus et interprétés par un tout petit cénacle qui maîtrise en fait cette culture-là. Mmh. Et donc, très vite, et c'est d'ailleurs paradoxal, quand vous regardez la naissance de l'imprimerie, vous avez des ecclésiastiques qui sont très enthousiastes et qui vont investir très vite dans des ateliers d'imprimerie, souvent d'ailleurs pour publier leur propre choix, soit leur propre texte, et d'autres au contraire qui vouent l'imprimerie hégémonie quasiment immédiatement, et ça a duré assez longtemps.
Oui, et donc le mythe de Gutenberg, il n'a pas découvert ça tout seul, comme on apprenait dans les livres d'histoire il y a 40 ans, 50 ans.
Alors, pour ne rien vous cacher, en fait, je ne suis pas assez vieux pour avoir été dans son atelier ce jour-là. mais en tout cas, faire de l'imprimerie, ça suppose de maîtriser un certain nombre de techniques qui sont extrêmement diverses. Par exemple, l'encre. Il faut du papier aussi, il faut maîtriser la taille de poinçon, il faut maîtriser la métallurgie, la fonte, la question de la presse, etc. etc. Donc déjà l'image qu'on a d'un Gutenberg qui invente l'imprimerie dans un temps très court, alors ça peut se compter en jours comme en années éventuellement en fonction de la chronologie qu'on aborde, est assez paradoxale dans la mesure où d'abord, la plupart de ces technologies existent par ailleurs, dans d'autres endroits sur la Terre. Je parlais de l'extrême Asie tout à l'heure, dans laquelle on imprime depuis très longtemps, y compris d'ailleurs avec des caractères mobiles métalliques, ce qui est considéré comme l'une des inventions de Gutenberg. Et d'autre part, parce que toutes ces techniques ou toutes ces matières premières, en fait, supposent déjà des processus quasi proto-industriels pour pouvoir les produire, en particulier le papier. Mmh. Et donc, pour revenir à cette question de l'extrême Asie, effectivement, depuis... Alors, le premier livre imprimé, qui a d'ailleurs été montré dans l'exposition... de la BNF, a été imprimé avec des caractères mobiles métalliques, et le livre le dit lui-même, dans le colophon, il y a un texte qui est sans ambiguïté, date de 1377, sachant que l'imprimerie en Occident, Gutenberg, on pense que la Bible à 42 lignes date de 1454.
Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites.
Un certain temps, et on a retrouvé des caractères métalliques dans une ville à Menwolde, en Corée du Nord, il y a quelques années, dans une couche stratigraphique qui date d'avant 1362. Mmh. Là, on n'a pas d'imprimé à mettre en face, par contre, on a des caractères métalliques.
Et il y a toute une culture professionnelle qui se développe dans les ateliers avec un vocabulaire, des règles spécifiques, les termes évoluent, vous le notez, de l'impresseur à l'imprimeur. Et les gens du livre, sont-ils des gens du livre ou aussi des gens de lettres ?
Alors ils peuvent être les deux. Ah oui. Les gens du livre sont les gens qui fabriquent le livre. Certains d'entre eux franchissent la barrière et deviennent gens de lettres. Dans l'autre sens, c'est plus rare. Alors, ce qui est intéressant avec cette question du vocabulaire, c'est que l'imprimerie n'existe pas au milieu du XVe siècle. Elle apparaît ex nihilo. Donc, il y a effectivement une espèce de latence avant de trouver les bons mots pour les bons métiers. Et finalement, en fait, c'est davantage les États, en tout cas la police, qui va commencer à mettre les bons mots, en tout cas à ranger les gens dans des cases et donc sous des appellations, parce que ça permet aussi de savoir où ils sont, de savoir très exactement ce qu'ils font et donc de les contrôler. Mmh. Après, vous avez effectivement des rites tout à fait spécifiques. Alors il faut avoir conscience qu'en France, l'essentiel de l'imprimerie, en particulier à Lyon et à Paris, qui arrive dans les années 1470 à Paris, 1473 à Lyon, ce sont des compagnons qui viennent d'Allemagne. Et typiquement, vous avez une grève qui a lieu au début du XVIe siècle, une grève importante qui va mobiliser presque tous les compagnons qui travaillent dans les imprimeries à Paris et à Lyon, qu'on appelle le Grand Tric. Alors, vous avez des étymologies tout à fait étranges là-dessus, dont l'une d'elles qui dit, mais en fait ça vient de trink, donc trinken en allemand c'est boire, et donc les compagnons, en fait, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec leur chef d'atelier ou avec le propriétaire de l'imprimerie, font un trick, donc ils s'arrêtent de travailler et ils se mettent en grève. Et là, en l'occurrence, dans cette grève-ci, il se trouve que les patrons imprimeurs tentent de rogner à la fois sur leur salaire, de les faire travailler plus, et notamment le salaire d'un compagnon à cette époque-là est constitué à la fois de nourriture et d'argent, et donc ils réduisent les parts de nourriture. Donc vous avez la première grande grève sectorielle, j'allais dire française, vient de là, et finalement le trick finit par évoluer de manière assez intéressante, puisque ça a donné le mot tricard, Et Tricard, en fait, c'est le patron qui ne respecte pas les règles qui sont acceptées par la profession, si vous voulez, et chez qui plus personne ne va travailler. Il est tricard.
Il y a aussi une forme d'aristocratie ouvrière qui se dessine au fil du temps.
Alors oui, les imprimeurs, les compositeurs et les imprimeurs font un métier tout à fait singulier dans la mesure où ils travaillent avec le matériau du texte. On leur demande donc à la fois de savoir lire, de savoir écrire, souvent de savoir dire soit le latin, soit le grec, en plus du vernaculaire qu'ils utilisent, le français, l'allemand, l'italien, et surtout de corriger les copies aussi, d'être en mesure en tout cas de faire un certain nombre de corrections. Donc ils s'estiment dès le début comme détenteurs d'une technique tout à fait spécifique et qu'ils sont les seuls à savoir maîtriser. Et d'autre part, effectivement, très vite, ils estiment aussi qu'ils font partie de cette aristocratie ouvrière, c'est-à-dire de gens capables d'aller discuter d'égal à égal avec les gens du livre, par exemple, avec les gens de lettres, pardon, par exemple. Et donc, ils s'arrogent un privilège qui est tout à fait interdit, c'est celui de porter l'épée. Donc, normalement, c'est uniquement les nobles qui portent l'épée, mais les typographes décident de porter l'épée. Et on voit au nombre de réitérations de l'interdiction pour les gens du livre de porter l'épée, qu'en fait, ils la portent pendant très très longtemps.
Oui. Et ils sont en phase 2, vous en parliez tout à l'heure, l'Église qui tente de contrôler l'imprimerie avec la censure. Vous consacrez d'ailleurs de nombreuses pages sur cette censure, avec le rôle de l'index qui va exister, je crois, jusqu'en 1966, c'est bien ça ?
Oui, absolument. Il a été supprimé officiellement en 1966.
Alors, on rappelle ce qu'est l'index ?
Alors, l'index, c'est un répertoire, un catalogue de tous les imprimés qui sont interdits d'accès à des bons chrétiens, bons catholiques en l'occurrence. Mmh. L'index n'existe pas dans le monde protestant. Et donc, il est mis en place progressivement. Au début, l'Église, dès les premières impressions, essaye d'imposer, ils y arrivent à peu près bien, une autorisation préalable. C'est-à-dire que finalement, un imprimeur qui voudrait imprimer un livre qui a trait à la religion doit demander une autorisation à l'évêque. Et s'il a cette autorisation, il peut effectivement l'imprimer. Sinon, il risque les foudres, en particulier de la justice laïque. Mmh. Progressivement, on s'aperçoit que c'est pas très utile parce qu'en réalité, il y a un certain nombre de livres qui sont imprimés sans autorisation, et notamment un livre, contrairement à un manuscrit, va être publié à plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'exemplaires, et dès qu'il est sorti de l'imprimerie, il est quasi impossible de le faire disparaître. Donc, très vite, vous avez un embrouillamini de savoir quels sont les livres finalement qui sont autorisés et lesquels ne sont pas. C'est l'origine de l'index. Donc les universités commencent à faire des listes de livres qu'il faut mettre de côté, dans lesquels vous avez plus ou moins de propositions hérétiques. Et au fur et à mesure, en fait, on va s'intéresser aux images aussi. Donc les images, tout ce qui relève de l'érotisme, plus ou moins marqué, rentre aussi dans ce type de catégorie. Et enfin, l'index, dans les années à partir du début du XXe siècle, voire un petit peu avant, va s'intéresser aussi à la question de la famille, et donc en particulier de tout ce qui ne relève pas de la moralité portée par l'Église, va entrer dans l'index également, d'où toute une série d'ouvrages. Alors Jean-Yves Mollier disait que finalement l'index au XIXe siècle, c'est un peu le Wouzou de la littérature du moment. Donc presque de ne pas faire un tour dans l'index, c'est presque un petit peu désespérant, quoi.
Et il y a la censure de l'Église, mais il y a aussi la censure du pouvoir temporel, cette censure-là, elle ne se contente pas de brûler les livres, il y a d'autres censures, il y a la prison, la justice, comme les affaires Baudelaire et Flaubert, et il y a aussi le silence de la presse, vous évoquez ces censures.
Alors oui, complètement. En fait, la liberté complète de publier a existé de manière assez fugace à partir du 26 août 1789 avec l'article 11. Mais très rapidement derrière, donc avant, il n'y a pas du tout de liberté puisque vous avez une espèce de mouvement en cisaille, mais finalement pas très bien organisé, ce qui permet des gros trous dans la cisaille ou dans la raquette. Donc entre le côté ecclésiastique avec l'index, mais les ecclésiastiques en fait ne pratiquent pas de justice temporelle. Donc ils peuvent désigner, mais après c'est au roi ou aux officiers royaux en fait de le pratiquer ou pas. De l'autre côté, vous avez effectivement la justice temporelle qui, elle, essaye tout autant que l'Église, pendant assez longtemps, de contrôler la question de la diffusion des imprimés. Donc, comme d'habitude, j'allais dire, ils sont tout à fait d'accord pour qu'on diffuse leurs idées à eux. Par contre, dès qu'il y a des idées qui contreviennent à ce qu'ils pensent, en fait, il faut effectivement les censurer. Et donc, vous avez une censure qui se met en place, y compris avec des autodafés, qui est plutôt... une cérémonie qui relève de l'Église, donc autodafé veut dire acte de foi, hein, tout simplement, dans lequel on va brûler les livres, comme éventuellement on brûlerait un hérétique sur un bûcher. Et vous avez, avec l'affaire des placards en 1534, vous avez typiquement François Ier qui, jusqu'à présent, était plutôt assez conciliant, en particulier avec les idées réformées. Mais on vient placarder un pamphlet contre la messe jusqu'à sur sa porte, la porte de sa chambre. Et donc là, il se fâche énormément au point de décider d'interdire l'imprimerie. Alors ça marche pas très bien, dans la mesure où c'est évidemment totalement impossible, il n'y arrive pas, mais ça va déclencher en fait une espèce d'emballement de législation qui devient de plus en plus répressive, jusqu'à Louis XV effectivement, et Louis XVI, donc à la toute fin de l'Ancien Régime, dans laquelle vous avez des peines de mort qui pourraient être édictées, même si elles ne l'ont pas nécessairement été à ce moment-là. Par contre, sous François Ier, vous avez effectivement un certain nombre d'imprimeurs qui ont été mis au bûcher avec leurs livres.
Oui, ah oui. Alors, bon, on a cette censure, et là, il y a des pages qui sont vraiment tout à fait intéressantes, qui montrent comment la liberté d'expression peut être menacée. Mais venons-en au XIXe siècle, il y a aussi une mobilisation des ouvriers du livre face à la modernisation. Comment s'opère la solidarité ?
Alors la solidarité, en fait, vous avez des réseaux, ce qui est tout à fait interdit dans l'Ancien Régime, vous avez des réseaux de solidarité qui sont très très anciens dans les milieux de l'imprimerie. En particulier, vous avez des caisses de grève qui existent quasi dès le XVIe siècle. Vous avez des espèces de confréries, si vous voulez, dans lesquelles les compagnons imprimeurs et typographes versent de l'argent. À la fois pour les grèves, je viens d'en parler, ils en versent aussi, par exemple, pour les veuves des compagnons qui seraient décédés ou pour les compagnons qui ne peuvent plus travailler desquels on fait le travail, mais on leur verse quand même un salaire puisque le patron ne le fera pas à la place, etc. Donc tous ces réseaux, en fait, sont très très mal vus, évidemment, par en particulier les patrons, parce qu'ils permettent d'imposer... les desiderata des imprimeurs et des typographes à l'intérieur des ateliers. Au XIXe siècle, à partir des années 1830, un petit peu avant, vous avez la machine à vapeur qui commence à s'imposer, en particulier dans les imprimeries. Alors, c'est pas le premier endroit où la machine à vapeur va apparaître, mais en tout cas, c'est un endroit où vous avez un rendement, si vous voulez, sur la machine à vapeur qui permet de diviser par 3 ou par 4 le nombre d'ouvriers pour réaliser un livre, par exemple, qui est tout à fait intéressant. Et donc, typiquement, lorsque la machine à vapeur arrive, c'est la révolution de 1830. Alors, d'abord, les imprimeurs sont partie prenante parce que la révolution de 1830 vient d'un durcissement des lois sur la liberté de la presse. Donc, eux sont tout à fait opposés à ce genre de choses. Et dans la foulée, ils se disent qu'ils pourraient bien casser quelques presses aussi, ce qu'ils appellent des mécaniques ou des casse-bras, puisque les presses sont à bras encore à ce moment-là. Et donc cette solidarité fait que vous avez une grève générale avec un certain nombre de presses qui vont être cassées. Mais assez curieusement, vous avez aussi toute une série d'appels à ne pas casser les presses, en disant que finalement, ça va être l'avenir et qu'il y a une forme de responsabilité morale, en tout cas parmi les gens du livre, à ne pas abîmer l'outil de travail.
Plus récemment, on avance très rapidement dans votre livre, qui est vraiment très très riche, vous présentez la grande aventure de la revue Zodiac et des collections éditées par l'abbaye de la Pierre-Quivire. En quoi cette aventure a-t-elle été importante ?
Alors, elle m'a intéressé parce que j'ai travaillé sur Zodiac à plusieurs reprises. Mmh. Elle m'a intéressé parce que ça allait un petit peu dans ce que je pense de l'évolution de l'imprimerie, si vous voulez. Donc, après la mécanisation, on rentre dans l'imprimerie industrielle, dans lesquelles le compagnon qui savait un petit peu tout faire dans les ateliers anciens va devenir un ouvrier d'abord, et surtout extrêmement spécialisé. Donc, à la fois très spécialisé, mais aussi bien moins à même de bloquer tout un système à l'endroit où il est. Pardonnez-moi, j'ai loupé...
L'intérêt de la revue Zodiac,
Donc, ce qui m'intéressait, c'est que ça allait dans le sens de ce que je pensais sur l'évolution de l'imprimerie, c'est-à-dire que Zodiac, vous avez là quelques moines bénédictins très jeunes qui sont formés dans les milieux cubistes français entre un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale et juste après, et qui vont se mettre à faire une revue. Et cette revue, en fait, comme ils sont totalement amateurs, ils ne connaissent aucune règle typographique, rien du tout à la question de l'imprimerie, ils vont inventer, ils vont mettre au point, en fait, une esthétique qui est tout à fait novatrice à ce moment-là. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, dans la mesure où ça montrait aussi que finalement, pour faire de l'imprimerie, à partir du moment où on a un petit peu compris comment on compose, comment on fait tourner une machine, on est tout à fait en mesure, effectivement, d'aller publier. Et là, par rapport à cette imprimerie industrielle que j'évoquais tout à l'heure, qui suppose des sommes absolument faramineuses pour pouvoir s'installer, ça correspondait à une autre vision de l'imprimerie, celle qui se glisse dans les interstices des choses plus classiques, avec des photocopieurs, avec des presses typographiques qui sont réformées par les entreprises normales, qui sont récupérées et qui vont servir à faire des fanzines, par exemple, ou des revues un petit peu underground, ou pour le coup une revue comme Zodiac, qui est intéressante sur quelques numéros, sur les 3-4 premières années. Après, elle devient moins graphiquement intéressante.
Et puis, le livre, c'est du texte, évidemment, mais c'est aussi des images. Zodiac le démontre. C'est aussi des bandes dessinées, le 9e art. Il y a un contrôle sur ces publications pendant la Seconde Guerre mondiale et après, avec la loi de 49. Alors, c'est encore une autre censure, ça ?
Alors, c'est une forme de censure, effectivement, la loi de 49, qui est portée essentiellement par les milieux plutôt catholiques français. Et qui effectivement, la bande dessinée s'adresse de manière privilégiée depuis son invention, ou en tout cas un petit peu après, disons après la Première Guerre mondiale, s'adresse essentiellement aux enfants. Donc vous avez déjà une querelle de savoir, faut-il soumettre les enfants à la question de l'image, sachant que l'image, c'est l'imaginaire, c'est aussi la fiction, c'est toute une série de choses finalement qu'on peut difficilement contrôler. Donc, vous avez une querelle des images dans les livres, par exemple, d'éducation, qui a lieu dans les années 1910 et juste après la Première Guerre mondiale. Et la bande dessinée, c'est un petit peu cet acmé-là. Sauf que dans l'intervalle, vous avez eu effectivement une évolution des mœurs et des pratiques culturelles qui font qu'il y a de plus en plus de bandes dessinées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier des bandes dessinées américaines. Et là, ça pose souci parce que les modèles américains ne sont pas du tout reconnus. La fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment où il y a un fort anti-américanisme en France aussi, disons-le tel quel. Et la loi de 49, effectivement, qui vise à protéger les jeunes lecteurs de lectures qui ne leur seraient pas destinées, est aussi un moyen extrêmement efficace d'aller censurer tout ce qui ne correspond pas à la vision qu'on pourrait avoir d'une lecture saine pour une jeunesse en devenir.
Oui, et aussi un peu pour des adultes.
Alors ça, c'est l'autre versant, effectivement, et la bande dessinée va devenir le 9e art, c'est ce que je montre dans ce chapitre-là, notamment par l'intermédiaire de cinéastes ou de gens qui sont proches du cinéma, et qui, d'une certaine manière, ont été obligés, quelques décennies plus tôt, de faire la même habilitation pour leur propre art, de revendiquer une bande dessinée de création à destination des adultes, éventuellement érotisante, voire au-delà, dans les années 1970 et un petit peu plus tard, avec à nouveau tout un cortège d'interdictions, de procès, pas d'auto-dafé, mais disons de mise à l'encan des bandes dessinées. Mais finalement, vous avez effectivement une revendication de ce 9e art, en tout cas de la bande dessinée, comme un art capable de transmettre quelque chose à l'instar de la littérature, de la peinture ou du cinéma ou de la musique.
Mmh. Et aujourd'hui, les évolutions techniques changent-elles les comportements des auteurs, des lecteurs? Comment ça change? Qu'est-ce que ça change?
Alors, les évolutions techniques, vous avez, presque deux versants des évolutions techniques. Vous avez une imprimerie qui est très, très industrielle, qui suppose de faire plusieurs milliers d'exemplaires, plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers, etc. Qui est, une imprimerie marchande, même si j'utilise ce terme-là, bien avant, à propos de l'opposition qui se créé entre les deux imprimeries dès la fin du XVe siècle. De l'autre côté, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que vous avez de plus en plus de petits ateliers qui renouent avec des techniques anciennes, non pas spécialement, alors ça peut être le cas, mais c'est pas obligatoire pour retrouver un savoir-faire ancestral, mais davantage parce que ces techniques anciennes sont faciles à mettre en œuvre, peu chères, permettent de tirer quelques dizaines, quelques centaines d'exemplaires dans un monde, le nôtre aujourd'hui, dans lequel la question de la bibliodiversité est tout à fait secouée. Il ne vous aura pas échappé que, vous avez les grands prestataires, par exemple, de l'édition livresque aujourd'hui, appartiennent plutôt à des milliardaires. Ce sont des grandes entreprises qui font des milliers de livres, dont on pourrait subodorer à un moment ou à un autre que, finalement, ils correspondent à une forme de littérature qui est attendu, ou en tout cas qui serait susceptible de trouver un public relativement large, relativement facilement.
Oui, et ce, en menant des campagnes publicitaires, y compris dans le métro, comme on vous vendait dans le temps des paquets de lessive ou autre.
Par exemple.
Mmh. Ah, oui.
Et donc, de l'autre côté, cette bibliodiversité, et vous avez beaucoup de petits éditeurs aujourd'hui, ou beaucoup de collectifs qui vont aller publier des fanzines, des livres et autres, pour un tout petit public, alors ils n'ont pas évidemment les moyens de se faire connaître, mais qui ont l'avantage de faire connaître ces textes-là, de les éditer, de les rendre accessibles à des lecteurs potentiels, chose qui n'existerait pas si on était resté sur une imprimerie beaucoup plus industrielle telle qu'elle existait dans les années 50-60 par exemple.
Mmh. D'accord, très bien. Eh bien, Olivier Deloignon, merci pour cet échange et ce panorama trop rapide sur la chose écrite, mais c'est le problème de la demi-heure d'entretien dans notre émission. Je rappelle les références de votre ouvrage, Une histoire de l'imprimerie, de la chose imprimée, publié aux éditions La Fabrique en 2023. Vous avez d'autres projets de livres à court terme ?
Alors, il vient de paraître, en fait, l'ouvrage, donc c'est publié en 2024. Alors, j'ai un autre projet de livre, mais qui est plutôt d'ici 2 ans, je pense, peut-être 3, et qui s'appellera « Penser le livre », c'est son titre provisoire, et qui va donc interroger, effectivement, la manière dont les auteurs, les lecteurs, etc., ont pensé le livre.
Toujours à La Fabrique ?
Alors, je ne sais pas encore.
Bon, bah, en tout cas, vous nous prévenez et on aura le plaisir de vous réinviter.
Merci beaucoup, en tout cas, de votre invitation. Merci à vos auditrices et à vos auditeurs.
Merci. Allez, au revoir, Olivier.
Au revoir.
Nous allons poursuivre avec un petit intermède de Ma mère loi, Le jardin féerique, une composition de Maurice Ravel, Frédéric. Oui, nous, en attendant notre ami Dominique qui va nous parler du livre de Kamel Daoud, Ouris, paru chez Gallimard cette année, je voulais insister encore sur le dernier Monde Libertaire, sur un commentaire sur la nature est-elle la variable d'ajustement de la société et la question de la décroissance. Voilà, c'est un livre qui est tout à fait intéressant. Et puis, nous vous invitons à soutenir un livre. Alors, vous savez que la dernière fois, nous avions parlé d'un livre consacré à George Orwell et à Hommage à la Catalogne. Là, c'est un film qui reprend la figure de Macnaud et de voir comment ce personnage a pu inspirer une partie de la jeunesse ukrainienne. Donc je vous renvoie sur le site du Monde Libertaire. Vous aurez là aussi les éléments qui vous permettent d'apprécier l'intérêt de financer cet ouvrage. Bon. Je signale aussi un livre qui vient de sortir aux éditions du Monde Libertaire, Nicolas Lamblé, pour un dénatalisme libertaire, ne pas vouloir d'enfants dans une société capitaliste. Ça, c'est un livre aussi qui peut nous intéresser. Enfin, vous trouverez la grille des programmes sur Radio Libertaire et l'annuaire des groupes et des liaisons de la Fédération anarchiste. Et si un groupe n'a pas d'adresse postale, eh bien il faut écrire tout simplement à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. C'est en fait une forme de quartier général pour nous. Bon. Encore au niveau des petites annonces comme ça, la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, souhaite acquérir les planches originales de La Bête est morte. Alors La Bête est morte, c'est un album dont Agnès va nous parler dans un instant. C'est un album d'Edmond François Calvo qui a été publié en 1944 et c'est assez intéressant de voir comment Calvo a pu transformer les acteurs de la Seconde Guerre mondiale en animaux et de voir comment nous avons pu diffuser un message anti-nazi par l'intermédiaire de la bande dessinée. Et la bête est morte est arrangée à côté de Maus, vous savez, dans lequel Art Spiegelman raconte la déportation de son père en utilisant des souris et des chats. Bon, écoute, Agnès, tu vas peut-être nous présenter justement ce livre-là. Tu peux
entendu,
y aller.
Oui. Ce livre est une bande dessinée rééditée par les éditions Gallimard. Edmond François Calvo est un auteur-dessinateur de bande dessinée français, né en 1892 et décédé en 1957. Et après bien des métiers différents et grâce à son imagination débordante, il s'illustrera dans beaucoup de magazines pour la jeunesse, en fait. Sous l'occupation allemande, avec la collaboration de scénaristes comme Victor Dansette et Jacques Zimmermann, il créera donc La Bête est morte, récit animalier, où chaque animal représente un peuple. Elle sera publiée dès 1944 et sera considérée comme un chef-d'œuvre de l'histoire de la bande dessinée. Il influencera des artistes comme Umberto, le créateur d'Astérix, et son œuvre majeure, une fois découverte, a permis à Edmond Calvo d'être reconnu, et la BNF, en effet, s'emploie actuellement à faire entrer dans ses collections l'ensemble des planches originales de La Bête est morte, en faisant donc un appel aux dons.
Alors, quelles sont les illustrations ?
Les Français sont des lapins. Attention, ils jouent au 421 et ont rien à envier au confort de leur dit terrier, oui. Des nids douillés. On n'est pas très loin des fabuleuses illustrations aussi de Claude Ponty, publiées aux éditions École des loisirs. Au marché, chacun discute de la politique du jour, prend des nouvelles et prépare ses menus. Les oiseaux vivent dans des nids. Non, pardon. S'ils vivent dans les arbres, il faut cependant faire remarquer qu'ils vivent en fait dans des maisons, aux toits abrités, avec fenêtres, volets, cheminées. Les grenouilles vont de concert en concert et de fête en fête. Pendant ce temps-là, un loup, accompagné de sa meute, forme une armée combative, exterminatrice et recherche des alliés.
Ce loup, d'ailleurs, il est en couverture du livre. Et c'est sous ses pattes, qu'est-ce qu'on trouve ?
Le dessin de
la croix gammée. Oui. Hein, donc, c'est, en fait, c'est Hitler. Hein,
voilà.
Le loup, c'est Hitler.
Les hyènes rejoindront l'équipe des loups. Bref, vous avez compris, les Français sont des lapins. Sauf De Gaulle, hein, représenté en cigogne nationale. Les Allemands, donc, sont des loups. Les Japonais, des singes. Et les Anglais, des bulldogs. Les lapins, nombreux, multiplient leur énergie pour lutter contre les loups, les hyènes, jusqu'à cette image troublante d'une mère lapin portant son enfant mort dans les bras. Un plan d'image à la Walt Disney, qui d'ailleurs contrarié qu'Edmond Calvo refuse de rejoindre leur équipe, l'accuseront de plagiat. Bref, c'est le tableau du chaos de cette guerre, vu du monde animal emporté comme humain dans la barbarie. Les privations, les cigognes enchaînées, les tortures, les exécutions sommaires, les séparations de familles et de mères et d'enfants, les espions, les résistants, jusqu'à l'arrivée des bulldogs, cigares au museau, et vaisseaux comme avions ultra sophistiqués. Et puis, l'intervention des singes et des autres jusqu'à la libération. Il y a quelques illustrations amusantes, comme celle d'un bulldog donnant la fessée à une hyène. Il y en a d'autres plus dures. Et puis, il y a quelques pleines pages splendides, comme la rentrée dans Paris, avec en fond Notre-Dame. Et puis, la liberté guide dans le peuple de Delacroix, transformée par des têtes de lapin. Une BD incroyable que je vous invite à découvrir, donc. Je vous rappelle le nom du livre, c'est La Bête est morte, la guerre mondiale chez les animaux, illustré par Edmond François Calvo aux éditions Gallimard BD.
Nous allons passer à un petit morceau là de notre ami Pierre Dac, qui était assez proche de nous. Bon, le titre, c'est Hitler, débine-toi.
Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi bien vite. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, crois-moi. Pourquoi te cramponner ? Le Reich est bien malade, maintenant ça te tombe dessus, c'est toi qui l'as voulu. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi bien vite. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, crois-moi.
En ces temps où l'immigration occupe les débats et fait l'objet de nombreuses invectives, imprécations diverses et variées, Marie nous propose un livre consacré à la venue des Algériens en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons enregistré Marie car ses études, ses cours la mobilisent. Aujourd'hui, Frédéric, on envoie le texte de Marie.
Alors Marie revient dans notre émission, elle en profite pour nous présenter un livre, Nous sommes venus en France, paru chez aux éditions Anna Moza et écrit par Mathias Gardet, et qui porte sur la situation des jeunes Algériens au lendemain de la guerre. Nous aimons particulièrement faire le lien avec le 17 octobre. Je rappelle que le 17 octobre 1961, la police française a réprimé sauvagement une manifestation organisée par les Algériens et les Algériennes pour faire état de leurs revendications et de l'indépendance. Aujourd'hui, nous parlons donc de la situation de ces jeunes hommes et femmes. Marie ?
Oui, alors cet ouvrage intitulé « Nous sommes venus en France, voix de jeunes Algériens de 1944 à 1963 » est écrit par l'historien-chercheur Mathias Gardet et paru aux éditions Anna Moza. Donc l'auteur, dans cet ouvrage, restitue le fruit d'importantes recherches dans les archives qui ont dévoilé une multitude de témoignages de jeunes immigrés algériens arrêtés sur le sol français par la police et retenus dans des centres d'observation de régions parisiennes, principalement le centre d'observation de Savigny-sur-Orge pour les garçons et de Chevilly-Larue pour les filles. Et donc, ils étaient retenus dans ces centres d'observation surveillés dans l'attente qu'un juge statue de leur sort. À travers les 16 chapitres que constitue cet ouvrage, Mathias Gardet a mis en lumière ce qu'il appelle ses histoires de vie, qui sont très personnelles car elles se rattachent à des parcours très variés de ces jeunes immigrés venus des campagnes et des villes d'Algérie. Certains jeunes ont été arrêtés pour simple fait de vagabondage, d'autres pour vol, tandis que certains se sont eux-mêmes présentés à la police car ils étaient dans une situation de grande précarité. Une iconographie très variée illustre les témoignages de ces fragments de vie retranscrits par l'auteur. Elle est constituée de nombreux dessins, de photos, de cartes, et en annexe, nous pouvons retrouver l'index biographique des jeunes Algériens et des Algériennes mentionnés à travers les pages de l'ouvrage. À travers tous ces récits de vie croisée et au fur et à mesure de la lecture, nous prenons conscience de la difficulté qu'ont pu éprouver ces adolescentes et ces adolescents qui se sont retrouvés aux mains d'une institution policière et judiciaire discriminante et violente, notamment pendant les interrogatoires. De nombreux jeunes racontent ce qu'a été leur vie avant leur arrivée en métropole, et beaucoup d'entre eux ont été élevés sans leur père car ces derniers partaient souvent travailler en France, où le travail était quand même plus abondant qu'en Algérie. Les jeunes Algériens témoignent des raisons qui les ont conduits à s'exiler en France, et il en découle bien souvent une volonté d'émancipation motivée par la nécessité d'échapper à la pauvreté qui est omniprésente dans cette Algérie coloniale très contrastée. Mathias Gardet met d'ailleurs en avant ce contraste dans le chapitre 4 qui aborde l'Algérie de papier, une Algérie dépeinte à travers le guide Michelin ou le guide bleu, qui correspondent d'ailleurs assez peu aux descriptions des jeunes Algériens du centre de Savigny. Une carte à la page 145 de l'ouvrage recense les lieux de résidence des jeunes Algériens arrivés en métropole entre 1945 et 1963. Une grande majorité est installée dans des hôtels meublés situés dans le 18e arrondissement de Paris. Les jeunes Algériens qui ont fréquenté le centre d'observation de Savigny-sur-Orge ont été confrontés aux préjugés raciaux les plus crasses de la part d'éducateurs, psychologues et psychiatres qui ont tiré pour principal constat de leurs observations une inadaptation généralisée au mode de vie occidental. Ces jeunes ont été constamment marginalisés par les institutions judiciaires, et cette marginalisation s'est accrue pendant la guerre d'Algérie, tout comme s'est accru le sentiment de défiance d'une majorité de Français pro-Algérie française vis-à-vis des immigrés algériens et nord-africains en général. Et les jeunes filles qui étaient, elles, retenues au centre de Chevilly-Larue ont été également très très marginalisées. Et puis leurs conditions de femmes, la plupart étaient venus en France pour échapper à des mariages forcés. Alors, on retrouve bien évidemment le parcours de Zora au chapitre 14, qui est très, très émouvant, bien sûr. Et puis, il y a des dessins, justement, faits par toutes ces jeunes filles où elles aspirent à un avenir meilleur, avec un travail, un mari qu'elles auraient elles-mêmes choisi. Donc, c'est vraiment très très intéressant.
Merci. Donc nous rappelons le titre. Nous sommes venus en France, voix de jeunes Algériens 1945-1963. L'auteur Mathias Gardet aux éditions Anna Moza. Et la couverture reprend des photos d'identité. Mais vous savez, celles où tous les prévenus ont une pancarte devant eux et on est de face, on est de côté. Et la couverture est blanche, rouge et verte, qui correspond évidemment à un drapeau qui est bien connu des Algériens. La prochaine fois, nous reparlerons d'un autre livre qui s'appelle
Barbès Blues. Et donc, c'est un livre justement qui parle de l'immigration algérienne dans les 18e arrondissements et particulièrement à Barbès.
Et n'oubliez pas la sortie d'un film qui porte sur cette même thématique et qui est tout à fait intéressant.
Et Barbès, Little Algérie.
Bon, très bien. Merci et à bientôt, Marie.
À bientôt.
Oui, alors, je pense que Dominique nous a oublié, parce qu'en ces temps de vacances, elle a oublié qu'on avait une émission. Et je vous présente tout de même le livre Kamel Daoud, Ouris, paru chez Gallimard. Alors, Kamel Daoud est né en 70 en Algérie, il a été rédacteur en chef pendant 8 ans du quotidien d'Oran, il a publié en 2013 son roman Meursault contre enquête, une réécriture de L'étranger d'Albert Camus. Il obtient le Goncourt du premier roman pour ce livre. Et puis, il sort un livre inquiétant. Le livre qui touche, qui fait vivre de l'intérieur des événements de la décennie noire algérienne entre 1992 et 2002. Au départ, on avait une vision assez vague. Et puis, en fait, ça nous permet de remettre au goût du jour, de nous rappeler ce qui s'est passé de ce drame humain. Alors, il y a de très belles descriptions d'Oran, de sa région. C'est un vrai roman, même si les massacres sont documentés et réels. Les personnages ont tous de l'épaisseur, à commencer par la narratrice Aube et les personnages secondaires. On pourrait comparer ce livre au Mille et une nuits. Pourquoi ? Parce que Aube est la seule survivante du massacre de sa famille. Elle est rescapée d'un égorgement, lorsqu'elle avait 5 ans, à la fin des années 90, dans un petit village. Elle parle à sa fille, qui grandit dans son ventre, et se demande si elle va garder l'enfant dans un pays qui ne veut pas de femme. Et tant qu'elle parle, elle garde en vie cet enfant. Et Dominique a beaucoup apprécié le dynamisme, le courage, le féminisme dans sa résistance au milieu islamiste, conservateur, anti-féministe, qui sévit d'ailleurs encore aujourd'hui en Algérie. C'est un peu Scheherazade comme le nom de son salon de coiffure. Et puis, Aube, elle est intéressante parce qu'elle se cache, elle est coincée entre l'envie d'avorter et celle de parler sans fin à sa fille. Elle va s'engager pendant la semaine de l'Aïd dans un pèlerinage tourmenté vers son village natal et la ferme familiale qu'elle appelle l'endroit mort. Et la première partie du livre est un monologue intérieur de cette jeune femme adressée au fœtus qu'elle porte. Je trouve vraiment, là, c'est moi qui parle, Francis, que c'est assez original. Bon. En deuxième partie, elle se rend dans son village où 1000 personnes ont été tuées en une nuit. Elle rencontre Aïssa, dernière survivante d'une famille de libraires. L'homme associe à chaque chiffre la mémoire précise d'un massacre survenu pendant cette période. Et il garde la mémoire absolue des massacres, des lieux, des noms des victimes. Et puis c'est un grand dilemme qui se pose à Aube, qui a survécu à la mort. Elle est face au choix problématique de savoir si elle peut donner la vie à une fille dans un pays qui n'en veut pas, on l'a déjà dit, des femmes. Bon, donc c'est vraiment un livre, oui, c'est vrai, c'est un livre difficile, car on y lit des massacres, des viols sur 400 pages. C'est un métier d'égorger, dit la narratrice. Il faut le lire à petite dose. Seule la fin est optimiste. Il y a peu de respiration entre ces violences, contrairement au livre de Gaël Fayed sur le Rwanda, dont on parlera plus tard. Le style est très littéraire, très dense, il devient plus facile à mesure que l'on progresse dans le livre. Oui, il y a un vrai travail et un travail de réconciliation, mais il y a un travail de clarté à opérer. Bon, et la narratrice termine par une phrase « La langue intérieure parle mieux à l'ennemi que la langue extérieure ». La prochaine fois, Dominique nous parlera de Mélisse de Carangal, Jour de ressac, paru chez Vertical. C'est une collection, c'est édité aussi chez Vertical, une sélection d'ailleurs pour le Goncourt. Mais je tiens à souligner que le livre qu'on vient rapidement d'évoquer, là, a de très bonnes chances. Je crois qu'il est finaliste pour le Goncourt. Pour une fois, nous aurons un livre d'une certaine qualité. Ça, c'est moi qui parle, Francis. Hein. Bon, c'est vraiment très bien en soi. Voilà, chers amis, des livres que nous souhaitions vous présenter en ce mois d'octobre, dernière émission d'octobre. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. J'en profite pour saluer, s'ils nous écoutent, nos amis de Bastia qui m'ont demandé comment pouvoir écouter notre émission. Eh bien, j'espère que vous avez pu le faire, que vous pourrez le faire en podcast. Encore merci pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouvera en direct le mercredi 13 novembre 2024. Nous recevrons Malcolm Ferdinand pour parler de son livre « S'aimer la terre ». Et oui, s'aimer comme aimer, mais s'aimer la terre, vous comprendrez pourquoi, la situation aux Antilles. D'ici là, bonne lecture. Et l'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire vous souhaite ni Dieu ni maître avec un nouveau générique de fin d'émission. Nothing but the blues de John Verity. Laissons la place à nos amis de Femmes Libres. À bientôt et au plaisir de partager.
Chinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez. Même si vous en mourrez.
Te mets pas. hasard, s'il y a de l'honneur, j'en ai marre. Je vais m'en sauver quelque part. D'une main, tu me files des bonbons. De l'autre, tu me files le bouton. Je veux avoir des joies futiles et pleurer même quand c'est pas la guerre. Je voudrais vivre des choses faciles. On n'a pas le même univers. Non, je porterai pas tes valises. Elles sont lourdes de misère. Dans la vie, faut des bêtises. Histoire d'être plus légère. Histoire d'être plus légère. Jamais rien su. Non, je jouerai pas.